Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Chers amis et chers auditeurs, nous en avons terminé avec un long commentaire sur la rencontre de Saül et de la sorcière, ou de la nécromancienne plus exactement, d'Endor. Et le roi lui-même avait interdit ce genre de consultation, par la volonté de Dieu. Et on ne peut pas mettre sa confiance dans des consultations occultes comme celle-là. Et David, depuis tout un temps, est persécuté par Saül, qui est jaloux de lui. Et Saül se rend bien compte qu'après la mort de Samuel, qui n'est plus soutenu, et c'est pour ça qu'il a voulu consulter sur l'avenir la nécromancienne. Et David, de son côté, n'avait plus la ressource que d'une vie errante. Et en l'absence de repères chronologiques assurés, il est difficile de dire si cette période difficile pour David a duré plusieurs mois ou quelques années. En tout cas, elle a été longue pour le proscrit et pour ses partisans. Et dans ces circonstances, David reste l'homme aimé de Dieu et des hommes et des femmes. Tout le monde reconnaît sa beauté et sa noblesse d'âme. On a le sentiment qu'il est protégé de Dieu, selon l'heureuse expression d'Abigaïl, une de ses épouses, qui voit son âme, c'est une formule que j'aime beaucoup, qui voit son âme ensachée dans le sachet de vie auprès du Seigneur. Son âme ensachée dans le sachet de vie auprès du Seigneur. Et on va jusqu'à le considérer, nous l'avons vu récemment chez les Philistins eux-mêmes, qui sont des ennemis pourtant héréditaires des Israélites, comme un ange de Dieu. L'amitié de Jonathan et de David imprègne tous ces récits farouches ou sanglants d'une tendresse forte dont nous avons longuement commenté la portée. L'un et l'autre sont des fidèles au sens le plus fort de ce mot. Ils honoreront jusqu'au bout leur pacte d'amitié mutuelle contracté dès la première rencontre, premier livre de Samuel au chapitre 18. Mais ils gardent aussi, à chacun à leur façon, leur foi à Saül, leur légitime révérence à Saül au titre de père pour l'un, de beau-père et de roi pour l'autre. Et Jonathan est écartelé entre sa piété à l'égard de son père, le sentiment filial par rapport à son père, et son vif attachement pour David. Le héros au grand cœur reçoit l'amitié de Jonathan, mais ne peut dans sa foi haïr loin, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction du Seigneur, ni lui nuire. L'un et l'autre iront jusqu'au bout de leur fidélité, David et Jonathan. Revenons à Saül, puisque cet épisode est le dernier qu'il concerne. Sa sortie de scène ne manque pas de grandeur, même s'il disparaît à l'occasion d'une défaite. Tout son personnage l'apparente au héros des tragédies grecques, qui luttent vainement contre leur destin et dont le salut consiste à dominer leur sort en l'assumant courageusement. Nous sommes parvenus au sommet de l'ensemble rédactionnel constitué par les deux livres de Samuel. Au sommet, c'est-à-dire au sommet, au centre, la plaque tournante et la charnière, pourrait-on dire aussi. Une version de la mort de Saül est donnée tout à la fin du premier livre. Et le deuxième de Samuel. Le deuxième livre de Samuel commence par un autre récit des événements, suivi de la poignante élégie qu'ils inspirent à David. Samuel a donné l'onction royale au cours du premier livre à Saül d'abord, puis après son rejet à David. Le bien-aimé du Seigneur et du peuple ne cesse de grandir, tandis que le premier roi est déchu, sombre dans une folie jalouse et se plonge dans la nécromancie et meurt sur le champ de bataille, et cependant il meurt en roi d'Israël. Saül n'a pas la hauteur morale de Jean-Baptiste, mais une certaine parenté les relie. Saül a préparé les voies pour David, comme le Baptiste a frayé la route à Jésus. Saül aurait pu dire comme Jean, mais il ne voulait sans doute pas au fond de son cœur, « Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. il faut qu'il croisse et que je diminue. Le moment où s'est opéré le passage du Baptiste à Jésus est celui de sa décapitation dans la forteresse de Machéronte. Et Saül cède sa place à David sur les monts de Gelboé. Jean-Baptiste, à un certain moment, ne savait plus trop ce qu'il fallait penser de Jésus. Et c'est étonnant cette formule dans Matthieu au chapitre 11e, où il fait demander à Jésus, alors qu'il était déjà en prison, « Es-tu celui qui doit venir, ou faut-il en attendre un autre ?» Et ce qui montre que dans nos vies, mais les personnages les plus saints, il n'y a pas de plus grand personnage qui soit né de la femme que Jean le Baptiste, a dit Jésus, c'est un témoignage extraordinaire. Et pourtant, il a douté, mais ben il s'est posé des questions. Et est-ce que c'est bien le Messie? Est-ce que tu es bien le Messie que j'étais chargé d'annoncer, alors qu'il était en même temps aussi son cousin? Mais d'une façon plus intéressée et avec lâcheté, Saül désemparé cherche à savoir quelle sera l'issue de la bataille décisive qu'il va devoir engager contre les Philistins. Avec mauvaise conscience, il recourt cependant pour cela au service d'une nécromancienne, nous l'avons vu. Et jusque dans la mort, Samuel est un prophète malheureux. Il avait commencé son ministère à Silo en annonçant au prêtre Élie la condamnation de sa maison, de ses fils et le désastre d'Israël. Eh bien, évoqué à la demande de Saül par la pythonisse d'Endor, il fait outre-tombe une ultime prophétie pour annoncer au premier roi d'Israël sa mort et la défaite de son peuple le lendemain. Une telle scène n'est pas sans rappeler le début de Hamlet de Shakespeare. Le héros voit apparaître le spectre de son père, le défunt roi de Danemark, venu lui demander de le venger de son oncle, et qui l'a tué pour prendre sa couronne et son épouse, la propre mère de Hamlet. Ici, le spectre de Samuel rend un oracle sans appel.